Bonjour mes frères et sœurs. Alors, nous autres, on dit toujours la paix de Dieu soit avec vous. En créole, nous dit bon Dieu bénis-vous. Et je suis ici ce matin j'étais allé à l'extérieur et je dis merci Seigneur. Merci pour cette belle famille universelle que tu nous as donnée. Et c'est ce qui fait ma force. Quand j'étais là, frôler la mort, et je savais que le Seigneur allait me sortir de là parce que j'ai une grande famille qui intercédait pour moi. Pouvez-vous applaudir le Saint-Esprit ce matin? La puissance de Dieu, les bras du Seigneur, il n'y a pas de barrière. Je suis ici ce matin, comme Pasteur Jacques a dit, l'histoire est vraiment, vraiment longue. J'aimerais prendre un petit temps, on ne va pas dire l'histoire va être longue, vous n'allez pas passer la journée ici, mais on va respecter, on va être dans le temps. Et tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos supports. Ce matin, j'ai vu des enfants dans les yeux de beaucoup d'entre vous qui me parlaient en avant et qui parlaient de l'école Emmaüs. Merci beaucoup. Merci pour votre grande générosité, vos supports. J'apporte, oui, Haïti, mais la salutation. Quand j'ai laissé, ils m'ont dit, mais saluez tous nos frères et sœurs qui sont là-bas. Vous comprenez? Vous êtes nos frères et sœurs. Quelle que soit votre langue, votre couleur, on est frères et sœurs dans le Seigneur. Et ils savent aussi que vous priez pour eux autres. Ce matin, peut-être dans 30 minutes, ils vont prier pour vous. On a notre corps diaconat qui prie tout le temps pour vous, pour Haïti et le Québec, les missionnaires. Ils prient pour vous. Nous vous en remercions et ils vous apportent aussi la salutation. J'aimerais remercier Pasteur Jacques pour son dynamisme, son leadership et toute son équipe qui travaille très fort pour soutenir cette œuvre que Dieu a placée à Duval. J'aimerais remercier vos leaders, le pasteur de cette église et son équipe qui a accepté de partager le micro, le plateforme, l'église, pour qu'on puisse parler. J'aimerais vous remercier, vous, ici présents ce matin. Ces vacances, vous auriez pu être en Floride ou en quelque part, mais vous êtes ici pour nous écouter. Merci de votre présence. Qu'est-ce que je vais vous conter ce matin? Un petit peu la genèse de cette mission que vous supportez. Alors, vous supportez quelque chose, mais ça vient quelque part. Alors, le nom de la mission, c'est la mission Centre Chrétien, Belle Vue de la Montagne. Il y a quelqu'un à travers la main du Seigneur qui l'a guidé, qui a commencé cette œuvre. Vous voyez, c'est notre patriarche, Papa Pierre. Cette année, il a 99 ans. Pouvez-vous applaudir le Seigneur encore? Je suis désolé, mais hier soir, je lui ai parlé. Il m'a dit, saluez, Pasteur Jacques, saluez. Saluez tout le monde pour moi, Pasteur Guito. On prie chaque jour. pour eux autres et on prie chaque jour pour vous. Et hier soir, j'étais dans le, au téléphone, participais à sa réunion de prière, à la maison. Le Seigneur l'avait appelé en 1972, comme vous voyez ici. Et on va aller un petit peu plus loin dans notre intervention. Vous allez comprendre à travers ma mère quand le Seigneur a appelé la famille. Et 3 ans plus tard, le Seigneur lui a confié l'œuvre à Duval. Donc, quand le Seigneur l'avait appelé, mon père fait partie des 7 enfants. Et 7 enfants, dis-je, de la famille. Puis il était le dernier. Et il est encore le dernier de la famille parce qu'il est encore vivant. Et quand le Seigneur l'avait appelé, il était un responsable d'habitation. Un petit peu culturel, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Culturellement parlant, quand on dit vous êtes responsable de l'habitation, alors c'est un héritage que mon grand-père lui avait légué, laissé. Et mon grand-père était aussi responsable de l'habitation. Qu'est-ce qu'il fait, responsable de l'habitation? C'est pas la sorcellerie, c'est pas le vaudou en quelque sorte, mais ils ont le petit coin, le petit petite maison où il y a des affaires, où il prie pour ses enfants, ses grands-enfants, pour éviter les mauvais sorts. Il ne connaissait pas Jésus. Vous comprenez? Mais c'est quand même des idoles. Mais quand mon grand-père est mort, il a passé la clé de l'habitation à mon père. Et c'est là, quand le Seigneur l'avait appelé, puis la famille venait au Seigneur, boum, il y a eu une effervescence quand mon père a commencé l'église. Du point de vue d'évangélisation. Alors, les gens abandonnaient les, vous avez entre parenthèses les lois, c'est ça qu'on appelle les idoles, et pour donner leur vie au Seigneur. Mais il y avait quelque chose là-dedans, la promesse de Dieu. Quand on commençait à briser les maisons où on adorait les idoles, briser, etc., les autres membres de la famille venait après mon père pour dire, mais écoute, vous êtes allé aux protestants et vous brûlez les affaires. Qu'est-ce qu'on va faire, nous autres, avec les mauvais esprits qui vont venir nous attaquer? Chose dite, chose faite. Et c'est comme ça l'évangélisation a commencé à Duval. Les gens commençaient à être tombés malades. À chaque fois que quelqu'un est malade, eh bien, il vient à la maison et mon père a imposé les mains. Prier pour eux autres, et comme ça, ils voient les miracles de Dieu dans leur vie, les autres donnent leur vie à Jésus. Et c'est comme ça, l'évangélisation a commencé à Duval, à travers l'église. Alors, l'église que vous voyez ici, on l'avait construite, c'est toute la communauté qui mettait la main ensemble, les enfants, etc. Et c'était vraiment avec une grande joie, et enthousiasme qu'on a construit ce temple ici. Alors, en 2000, le bâtiment de l'église a été grandi pour accueillir les élèves de l'école Emmaüs. Ici, avant, c'était les membres de l'église que vous voyez, mais ici, ce sont les enfants de l'école qu'on logeait à l'intérieur de ce bâtiment. Il faisait chaud, mais les enfants étaient là de 8 heures jusqu'à 1 heure pour recevoir le pain de l'instruction. Alors, les tremblements de terre 2010 a semé l'apagage, le désespoir dans la communauté. Le petit bâtiment pour l'église, l'école qui desservait a été détruit. Alors, pensez-vous au désastre? Et moi, quand je suis arrivé là, Je faisais comme Néhémie. Je faisais le constat. Et ici, vous allez voir une seule demoiselle qui était là, priait le Seigneur. Et je suis allé m'asseoir, m'asseoir à côté d'elle et je dis, « Perdez pas l'espoir. Dieu est grand. Il va reconstruire. Il va rebâtir la communauté. Il va reconstruire le temple qui est l'image, l'espoir de la communauté. » Regarde les ruines. Et maintenant, on va ouvrir une petite parenthèse pour parler de la vision prophétique. Et avant de vous montrer ce qui est arrivé après le tremblement de terre, je vais vous expliquer en partie cette vision. Mon grand-père, qui était un aveugle avec l'âge, il a perdu l'œil, les vues. Il était un ancien soldat. À sa mort, il a réuni tous ses enfants et ses petits-enfants. Et il nous a expliqué, « Ah, mes enfants, du val que vous voyez, j'ai vu la lumière. J'ai vu des voitures. » Et il a dit, « Je vois même des hélicoptères qui descendaient à Duval. » Écoute, lumière. On ne savait même pas ça, c'est quoi la lumière. Parce qu'on n'avait pas d'énergie. Voiture, on n'a jamais vu ça. Pour nous, notre grand-père nous racontait quelque chose d'illusoire. Mais ça n'a jamais remonté dans l'esprit de personne, même mon père. Et Dieu a utilisé mon grand-père, qui était un responsable d'habitation, qui ne connaissait pas Jésus, pour lui confier une vision qui a commencé en 2010, après le tremblement de terre. Dieu a monté ça dans mon esprit quand pasteur Jacques Eko arrivait à Duval et me demandait, « Pasteur Guito, raconte-nous ça. Alors, conte-nous votre histoire. Raconte-nous votre histoire. D'où ça vient ?» Alors, c'est alors que j'ai frappé la tête, à droite, à gauche, puis le Seigneur m'a dit, « Mais t'as oublié la vision de ton grand-père. » Voilà. C'est ça, la vision. Et ici, c'est l'église. Les gens sont à l'extérieur. Il fait un peu... C'est brun. L'autre jour, j'ai dit noir. Mais c'est pas... C'est un peu noir quand même. Mais il n'y a pas de lumière. Alors, les gens, vous voyez, la photo est un petit peu comme manquer d'éclairage. Alors, l'œuvre que le Seigneur a confiée a grandi. C'est là l'expansion, l'œuvre missionnaire. On fait beaucoup d'œuvres missionnaires à Duval. À Duval, si vous arrivez à Duval, je peux vous compter environ 2 ou 3 familles qui ne sont pas encore totalement données au Seigneur, mais dans cette 2 ou 3 familles-là, soit la maman, le mari ou les enfants viennent à l'église. OK? L'œuvre a grandi, on a l'implantation de 5 nouvelles églises à travers la mission dans des 2 communautés différentes. Et on a beaucoup de pasteurs d'autres églises qui se confraternisent avec nous et qui viennent à Duval. Notre slogan, c'est « Viens et voir ». Alors, les gens viennent et ils voient. Et ils sont vraiment reconnaissants envers le Seigneur pour ce qui se passe à Duval. On a de la formation et support aux ouvriers et des leaders pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans différentes communautés à Duval. Alors, ça, c'est le bâtiment après le tremblement de terre, où loge l'église présentement. En moyenne, ça c'est plein. On reçoit environ 250 à 300 membres par dimanche. Et quand on a notre convention, les gens restent dehors. On donne environ 800 à 1000 plats. C'est ce qui nous donne une indication combien de gens qui étaient là assistaient pendant une semaine à notre convention annuelle. Ici, c'est l'école Emmaüs de Duval. À l'école, on reçoit environ, vous allez le voir un petit peu, je ne sais pas si c'est en avant, et c'est une école une éducation chrétienne. D'ailleurs, l'école est une école chrétienne. On reçoit environ 253 élèves cette année et on voit les chiffres s'augmentent, s'avancent. Alors, on fait beaucoup d'évangélisation à l'école Emmaüs de Duval. On donne un plat chaud aux enfants. On fait le pastoral social aussi avec ces enfants-là. Et cette année, beaucoup d'entre eux et d'autres jeunes dans la communauté se donnent au Seigneur. Et on a environ 30 jeunes qui vont se faire baptiser le 12 août prochain. Applaudis le Seigneur si vous voulez. On ne trouve pas ça dans ce monde. On vit actuellement. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Et je vais vous conter quelque chose là-dedans, parce que Jacques parle de miracles. Ça, c'est nos enfants à l'école. Grâce à vos contributions, École Emmaüs offre un plat chaud avec ces enfants-là. Je vais vous raconter quelque chose, une anecdote. L'argent que vous envoyez à Haïti pour donner à manger à ces enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un jour, j'ai rentré dans une salle de classe. J'ai vu un petit gars qui regardait les autres enfants. Et moi, j'y suis allé innocemment vers lui. J'ai dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Et il dit, non, je ne mange pas. Et j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai demandé à la madame d'aller chercher un plat pour l'enfant. Et l'enfant me regardait avec de gros yeux. Il dit, pasteur, pardonne-moi. Ma nourriture est là. Je l'ai cachée, une portion dans ma valise et dans ma poche pour la maison. Et j'ai demandé à la madame, j'ai dit, OK, viens. On sort sa nourriture et on lui donne un autre plat de nourriture pour lui-même. Et on envoie un bol à la maison. C'est quelque chose. Pendant le repas pour l'école, mon gardien s'est obligé tout le temps de dire aux gens, mais attends, laisse-nous finir de donner à manger aux enfants et on va vous sauver quand même une partie là-dedans. On dirait que c'est monsieur et madame tout le monde qui arrivaient. Mais le Seigneur nous donne toujours un moyen et de la sagesse pour ne pas repousser personne. Parce que notre devise, notre devoir, notre rappel, c'est de servir la communauté. À travers vos dons, vous parrainez des enfants. Et c'est ce qui fait qu'on s'accroche. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile pour vous. De donner. Alors, mais si vous regardez ici, Chandeline, la fille qui a le plus gros sourire, tu comprends? À chaque fois que les parents envoient quelque chose à cet enfant-là et on lui donne, tu vois la joie de cet enfant. Parce qu'en Haïti, c'est comme donner des cadeaux à la fin d'année, etc. Je pense que c'est la seule école qu'il fait en Haïti, c'est l'école Emmaüs, à travers ce que vous avez envoyé, et en général, et aussi en particulier, aux enfants. Alors, c'est ça, parrainer un enfant, c'est créer de l'espoir dans la vie de cet enfant-là. autre projet qu'on a dans la mission, à la mission MCCBM. On a une clinique communautaire où on aide les gens avec des médicaments. Les gens n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital. Vous arrivez à l'hôpital, la secrétaire, vous lui dites bonjour. Vous dites, vous voulez voir le médecin? Oui. 1 000 gouttes, 2 000 gouttes, 2 500 gouttes, madame, pour voir le médecin. Vous ne l'avez pas? Retournez chez vous. Et parfois, les gens retournent. Mais Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins. À Duval, on a ça. Et agriculture, on donne des œufs aux enfants pour les aider à avoir de calories. Projet eau potable. En plus de 15 ans, on essaie de creuser un puits. Mais cette année, grâce à vos dons, le Seigneur nous a permis de creuser un puits de 422 pieds. Et on a de l'eau potable. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? On a de l'eau potable pour desservir la communauté. Enfin, nos enfants vont pouvoir boire de l'eau pure. PCF, programme préventif en santé et en éducation familiale. Les gens dépendent toujours. Parfois, j'arrive à l'église puis les gens me regardent avec un visage découragé, languissant. Mais grâce à vos initiatives, aujourd'hui, on a réussi à créer un petit corps pour passer un petit peu d'argent aux familles qui vont ouvrir un petit commerce ou agrandir quelque chose. C'est peu. Oui, c'est peu. Mais c'est quand même important. Ça fait une différence dans leur vie. Autre projet. Vous allez comprendre quand je vous encourageais tout à l'heure de supporter l'école, de supporter le plan parrainage. L'argent qu'on paie les professeurs, on engage ces jeunes-là. Ils enseignent avec le petit montant qu'on leur donne comme professeur, ils vont à l'université ou au collège, apprennent un métier. Et vous allez comprendre, ce jeune homme qui est diplômé comme ingénieur civil, un jour j'ai rencontré son père avec un beau habit. Puis j'ai dit, mais comment vous êtes habillé? Il dit, ah, mon fils qui m'a habillé comme ça. Et écoute, dans chaque famille, à chaque fois qu'un jeune décroche un diplôme, tout le reste de la famille regarde. C'est comme un sauveur. Alors, l'argent que vous donnez, voilà, ça fait. Père le professeur, donnez à manger aux enfants et envoyez ces jeunes pour couper l'exode social. L'exode, les jeunes laissent la communauté pour aller en ville et aller chercher des emplois dans les milieux des gangs, etc. Et parfois, les jeunes retournent à Duval désespérément. Mais maintenant, à Duval, on crée de l'espoir. Ils vont à l'école. Autre projet aussi, regardez ici, ce sont mes enfants, ces jeunes-là. Je les ai insérés dans un programme qui s'appelle Disciple. Je fais la formation pendant 3 ans. Et ils sont non seulement devenus des leaders qui enseignent école dimanche, prêchent à l'église, mais ce sont des professionnels au niveau de la musique. On leur donne une profession. Ce sont nos gradués à l'école. Alors, l'autre partie que vous voyez, ce sont des jeunes qui sont à l'école présentement. Je les ai parlé hier. Autre projet, à Duval, on a des enfants qui marchent en guenille. Quand je dis en guenille, vous comprenez. Ma première vision quand je suis arrivé, c'est du Seigneur. Comment je vais faire pour accueillir ces enfants après l'école? Les enfants qui sont dans la rue et qui dorment à la belle étoile. Et le Seigneur m'a révélé, il faut construire la maison espoir des enfants. Ça, c'est la maison d'espoir. Le nom dit tout. Et on ne peut pas attendre pour rentrer 10 ou 20 enfants dans ce building et leur donner une éducation. Non seulement l'éducation de qualité chrétienne qu'on donne à l'école Emmaüs, mais ces enfants-là vont être formés pour desservir la communauté. Donc, c'est la maison d'espoir. Ici, d'autres projets. Projet Haïti aussi, qui construit l'école, construit des buildings, des locaux, envoie des affaires là pour créer de projets ou bien pour permettre aux gens de travailler. Le pain en Haïti. Les gens, comme déjeuner, mangent du pain avec du café. Moi, toute ma vie, c'était avoir du pain dans la communauté. J'étais tanné de voir que les gens de la communauté se réveillent et attendent le marchand de pain qui sortait 13 presque miles de Port-au-Prince, Pétionville, pour monter à Duval et les gens attendent le pain. Moi, j'ai dit, il faut qu'on a des pains sur place, la boulangerie. Vous voyez? Et on a d'autres projets aussi à venir cette année. On a traversé dans le nouveau secondaire. Les jeunes vont aller plus loin. NS1, NS2, NS3, etc. On aura besoin 4 salles pour le secondaire. 4 nouvelles salles de classe. Et construction d'un centre de santé, c'est dans l'école qu'on loge la clinique. On aura besoin de ça. Et salle de informatique pour nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les jeunes, vraiment, la tendance est là et l'attente est là. Il faut trouver un moyen pour le combler. Alors, tout ce dont je viens vous parler, il y en a plein de projets. Mais on a résumé pour vous un petit peu. Moi, votre serviteur qui vous parle, je suis en Haïti comme directeur de l'école Emmaüs de Duval, responsable de la mission Centre chrétien en Bellevue de la Montagne. J'ai été confronté à une situation désastreuse. Et le diable, à travers tout ce projet, avait un plan. Mais pendant que j'étais en questionnement, et le Seigneur m'a donné 2 versets, alors 2 Écritures. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité comme moi. Ta colère est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Et je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puisez de l'eau avec joie aux sources du salut. Néhémie, chapitre 8, si vous l'avez. Il leur dit, allez, mangez vos viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Lorsque je lisais ces 2 versets, je le combinais ensemble. Et je dis, wow! Ésaïe, Néhémie, Esdras et les autres. Mais je dis, Ésaïe, l'un des plus grands des 4 prophètes du Nouveau Testament. Et ces gens-là, Néhémie et ses compagnons, ont expérimenté la protection de Dieu, ont expérimenté à travers leur vie l'intervention de Dieu dans leur ministère. Et il y a ces facteurs-là qui étaient venus me chercher. Un, c'est la haute protection du Seigneur. Et Esaïe a dit, Dieu est ma force. Hein? Deuxièmement, quand il dit, je serai plein de confiance, c'est l'Éternel, Dieu qui assure sa sécurité. Et il dit, je ne craindrai rien. L'Éternel contrôle le centre de ses émotions. Il est notre force. C'est lui qui lui a donné, qui les ont donné de la vigueur dans ses faiblesses, dans leurs faiblesses. Et il est aussi la source de leur joie et la source de leur salut. Ce matin, chers frères et sœurs, et j'aimerais conclure ou rester là avec vous sur le septième, le sixième évidence de ce qui ressort de ce verset. Alors, il y a le vrai, un vrai rapport entre votre joie et votre force. Quand vous êtes pleinement heureux, vous êtes fort. Qu'est-ce qui était arrivé? Les gangs en Haïti, c'est eux qui font la loi. Ils étaient venus m'enlever. En constatant là, c'est pas eux autres, mais c'est l'un et demi qui les a utilisés. En voyant ce que vous faites, non seulement vous avez de la joie en dedans et vous continuez à le faire, et les gens de la communauté de Duval ont débordé de joie de voir la main du Seigneur, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Le diable, c'est d'atténuer cette joie-là. C'est essayer d'enlever cette joie dans le cœur, dans nos cœurs. Et quels moyens, quels outils le diable utilise pour enlever votre joie? C'est la peur. Il envoie la peur. Nous avons dû trembler quand la peur frappe à nos portes pour amener des inquiétudes, l'angoisse, affolement et épreuve, panique et torture. J'ai été paniqué, j'ai été torturé quand il était venu mettre la main sur moi. Et le méchant, la Bible dit, quand il vient pour tuer et dérober. Mais heureusement, le Seigneur a dit, moi, je donne ma vie pour mes brebis. Et Satan, le diable, ne pourra pas nous toucher. Il ne pourra pas enlever cette joie, quoi qu'il en fasse. Alors, quand il vient me chercher ce jour-là, je peux vous dire que j'ai foulé la mort. Il m'a emmené dans un cachot. Et dans ce cachot où j'étais, j'avais confiance que le Seigneur allait me délivrer. Je sortais là avec l'ultime conviction de retourner à Duval. Et le Seigneur n'a jamais été enlevé la conviction, le désir de continuer servir la communauté. J'ai un ami qui m'a appelé la veille que j'allais rentrer. Il dit, Guito, avec quel amour, quel est cet amour qui vous a animé de retourner à Duval? Et il a posé une deuxième question. Il dit, donne-moi votre secret. Je dis, tu l'as déjà dit avant, c'est l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu nous est dans notre vie, est dans notre désir, on le fait par la foi. L'amour de Dieu nous montre par la foi. Nous percevons déjà notre victoire. Qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire? Il vient et il enlève cet amour. Et j'étais là, dans ma prison, dans ma cellule. J'ai entendu dire, on va le tuer, on va le brûler. Mais à chaque fois que ça arrive, j'ai dit, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Et je vais vous dire aujourd'hui, chers amis, l'épreuve a été dure pour la famille. Les enfants, les jeunes qui travaillent dans la communauté ont été terrorisés. Mon grand-père, mon père, Papa Pierre, a été terrorisé. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose. Quand j'étais là, il a envoyé un chef de gang qui venait me parler pendant 3 heures de temps. Il m'a dit, pasteur, ce que vous faites à Duval, continuez à le faire, vous êtes un homme de Dieu. Il m'a dit, moi je suis un ancien chrétien. Vous entendez? Je suis un professionnel, intellectuel. Mais j'abandonnerai jamais ce que je fais autant que les gangs existent en Haïti. Mais il m'a dit, toi, tu es différent. Tu es un leader, tu sers une communauté. Moi, je lui ai dit, écoute, je lui ai envoyé aussi des fleurs pour dire, mais vous aussi, vous êtes un leader. Il dit, oui. Il dit, comment vous savez? Je dis, mais l'école qui est à côté, les marchands qui vendent de nourriture, qui vous vendent de la nourriture, quand leurs stocks sont épuisés, vous leur donnez de l'argent? Il m'a dit, oui, je le fais. Tu retournes à Duval, pasteur, tu fais ton travail. Parce que vendredi soir, il a essayé de me relâcher une soirée. Il était venu frapper à ma porte pour dire, on vous relâche à 11 heures. J'ai tremblé. J'ai dit, waouh, ils vont aller me tuer. Parce que depuis que j'étais là, j'ai jamais vu quelqu'un relâcher à 11 heures. Mais comme Jésus a passé 3 jours et 3 nuits, au sein de la terre, évangéliser les morts. Moi, j'étais là, j'ai évangélisé 2 messieurs qui ont donné leur vie à Jésus. Vous pouvez applaudir ça, s'il vous plaît. L'un d'entre eux m'a dit, je suis un chef spirituel. J'ai formé des francs-maçons, pasteur Guito. Mais j'ai frôlé la mort quand les gens m'ont enlevé et j'ai failli mourir. Sans Jésus, avant que je parte, j'aimerais que vous priez avec moi. J'ai prié avec lui. Le deuxième, c'est un jeune garçon de 47 ans, 37 ans dis-je. Dès sa rentrée dans la cellule, il pleurait, il frappait la tête. Mais j'ai dit, mais arrêtez. Il dit, non, j'ai failli mourir sans Jésus. Puis j'ai prié avec. Mais vous comprenez? La foi, la parole de Dieu. Quand il était venu me chercher à 11 heures, et j'ai dit, waouh, je vais mourir, ils vont me tuer. Il dit, non, pasteur, dis pas ça. Vous venez de prier avec moi. Et vous dites ça? Il dit, rien ne va pas vous arriver. Ayez confiance en Dieu. Et quand j'étais arrivé là où il devrait me livrer, pour prendre la rançon, ça tournait mal. Il y avait un backup police et un blindé. Puis, ils ont décidé de retourner avec moi dans ma cellule. Et en rentrant, il m'a dit, pasteur, faites attention où vous allez mettre les pieds parce qu'on ne veut pas que rien vous arrive. Et le lendemain, il m'a dit, si vous n'étiez pas là, on considère que c'était votre présence qui nous a accompagnés de retourner ici parce que on serait tous morts. Et il m'a dit, continuez à servir le Seigneur. Retournez. Si vous entendez une balle tirée dans votre communauté, faites-le moi savoir. Mais je vous dis la vérité, je n'appellerai jamais un bandit. Je ne l'ai pas fait. Alors, je vais me raccourcir pour fermer, pour vous dire, mes frères et sœurs, vous êtes au Québec. J'ai vécu environ 22 ans ici. Je sais c'est quoi la vie de chaque jour. Je sais c'est quoi mes frères et sœurs peuvent endurer. Moi, je l'ai enduré. J'ai enduré cette épreuve dans un contexte, dans notre contexte Haïti. Mais on a chacun nos lots. On a chacun notre bobo. On a chacun des difficultés. La dépression, le découragement, l'angoisse, le stress de chaque jour. Dans un contexte différent, nous avons notre épreuve. Mais ayez courage, n'ayez pas peur. Nous servons un grand Dieu. Applaudissez ce grand Dieu. Il va vous supporter. Il va vous accompagner. Il va vous délivrer. Il est là pour vous apporter la délivrance. Il est votre sécurité. Il est votre force. C'est ça, David dit. Dans mon texte à moi, j'ai regardé, celui-là, pasteur Jacques, Paul, l'un, je pense que vous le savez, le plus grand apôtre dans le Nouveau Testament, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrême, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, non abandonnés, abattus, non perdus. J'étais là dans ma cellule, je suis diabétique, j'ai passé 3 jours, 3 nuits sans manger. Quand je suis retourné, l'ambassade du Canada avait envoyé une ambulance et m'a amené à l'hôpital. Le médecin m'a dit, Monsieur Pierre, mais vous êtes diabétique. Je dis oui, mais vous avez votre sucre est comme le sucre d'un bébé. Vous n'avez pas de tension. Qu'est-ce qui vous a gardé comme ça? Je dis, la joie du Seigneur. Applaudissez cette joie. Le Seigneur a dit, Paul a dit, la joie du Seigneur est ma force. Saisissez cette force, bien-aimé. Saisissez-la. La joie du Seigneur. Et madame m'a regardé. Il m'a dit, mais comment vos agresseurs vous ont traité pour que vous êtes si en forme? Mais pourtant, j'ai reçu des coups, ils m'ont battu. Et j'ai perdu connaissance 3 fois. Mais la main du Seigneur était sur moi. David dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence de son amour et il aura pour toi des temps d'allégresse. À un moment de la durée, j'ai pensé que le Seigneur m'avait abandonné. Mais il gardait le silence parce qu'il allait me délivrer dans ma détresse. L'Éternel est bon. Mais il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Confiez-vous en le Seigneur. J'ai entendu pendant mon voyage ici, les gens qui se plaignent, la dépression va arriver, etc., etc. Confiez-vous en le Seigneur. Il prendra soin de vous. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve sûreté. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Le samedi matin, quand j'allais être libéré, j'ai entendu le grand chef, on l'appelle le baron de la plaine. Je l'ai entendu en gueuler ma famille qui allait apporter le rançon. Il dit, si vous répondez pas à mes attentes, je vais brûler des caoutchoucs et vous allez entendre hurler votre pasteur. Vous savez, des menaces de mort et toutes sortes. Et le Seigneur était là. Il était là. Le prochain verset que je vais vous lire, vous allez comprendre, il dit, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. L'ennemi était en colère, par moment, parce qu'ils étaient impatients. Mais le Seigneur a apaisé leur colère. Si tu traverses le zoo, les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera point. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous encourager de nous aider dans vos prières. Je suis en Haïti, j'aurais pu être ici. J'aurais pu être ici. Mais les gens qui ne comprennent pas cet aspect, ils disent, mais vous allez retourner. Je dis non. Je retourne à Duval, deux pieds fermes, 100 000 à l'heure pour continuer mon travail. On compte sur vos prières. Et il y a plein de besoins futurs en Haïti qui requièrent ma présence, qui requièrent vos prières. Même si vous ne pouvez pas voyager, on a la construction pour loger des enfants. Des enfants, cette année, on m'a dit qu'on avait des nouvelles inscriptions et on est presque rendu presque à 300 enfants. Nos enseignants, quand j'ai retourné à Duval, je les encourageais pendant 4 mois après mon kidnapping. J'étais là avec eux. J'ai prié avec eux. On mangeait ensemble. La communauté était aux abois. Et maintenant, on a une communauté qui bouge. Chaque dimanche, 5 à 10 personnes passent en avant pour accepter le Seigneur. Vous pouvez applaudir le Seigneur pour ses fruits, pour ses récoltes. L'Église, nos églises ont besoin de prière. Nos pasteurs, nos leaders, on a besoin de vous dans le voyage missionnaire. S'il vous plaît, ça va venir. Ça va venir. Et nous autres, notre plus grande vision, c'est de foncer dans l'évangélisation. Parce que je vois qu'est-ce que ça fait, le fruit de l'évangélisation. J'aimerais rester là avec ce petit mot. Je vous dis un grand merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse.